Radio Prague, les informations.
Bonjour à tous. Manifestation contre l'exploitation d'uranium en Bohême du Nord. Le ministère tchèque des Affaires étrangères avertit des dangers de se rendre actuellement au Pakistan. Et puis sport, ski de fond, c'est le russe Morilov qui a remporté le sprint de Prague ce dimanche. Plusieurs centaines de personnes ont protesté ce dimanche contre la potentielle ouverture d'une mine d'uranium en Bohême du Nord. Un gisement d'uranium avait été découvert près de la commune de Kotel dans les années 60, mais n'a jamais encore été exploité à cause du manque de rentabilité. Avec l'augmentation récente des cours de l'uranium, la société Diamo a demandé aux autorités de faire répertorier officiellement ce gisement, une initiative que les défenseurs de l'environnement considèrent comme une première étape avant une future exploitation. Le gisement pourrait contenir près de 115 000 tonnes d'uranium, soit l'équivalent de près de 20 milliards d'euros au cours actuel. Le gouvernement tchèque a choisi 8 différents sites pour les futures réunions officielles prévues pendant la présidence tchèque de l'Union européenne en 2009. Parmi ces sites se trouve le château de Hluboká nad Vltavou en Bohême du Sud, le centre des congrès de Prague ainsi que plusieurs autres à Litoměřice, Mariánské Lázně, Ostrava et Luhačovice. La présidence tchèque devrait commencer juste après la présidence française, le 1er janvier 2009. L'Europe sans barrières, c'est le slogan choisi pour cette présidence. Le ministère tchèque des Affaires étrangères déconseille fortement aux citoyens de se rendre au Pakistan. Dans un communiqué publié samedi, le ministère prévient qu'il y a de violentes manifestations dans plusieurs villes du pays après l'attentat commis contre Benazir Bhutto. Il recommande à tous ceux qui avaient l'intention de voyager au Pakistan d'attendre, de voir comment la situation va évoluer, d'autant que les liaisons aériennes étaient coupées vendredi. La situation devrait se calmer, néanmoins, à cause des prochaines élections prévues le 8 janvier, elle pourrait à nouveau empirer, c'est ce qu'on peut lire à la fin du communiqué. Et puis je vous le disais en titre, en sport, c'est la 3e étape du tour de ski, un sprint style libre qui a eu lieu dimanche à Prague, devant le château, où de la neige avait été acheminée par camion depuis la Šumava. Chez les hommes, le russe Nikolaï Morilov l'a emporté en finale contre le norvégien Simen Ostensen. Ce dernier prend la tête du classement provisoire du tour de ski, devant le tchèque Lukáš Bauer, qui n'a pas passé les qualifications dimanche. Chez les femmes, c'est l'italienne Arianna Follis qui l'a remporté dimanche devant la finlandaise Pirjo Muranen. Avec sa 3e place, la norvégienne Marit Bjørgen conserve la tête du classement provisoire du tour de ski. Le tour de ski qui fait relâche lundi et reprendra mardi à Nové Město en Moravie avec un 10 km style libre pour les dames et un 15 km pour les messieurs. Et on termine comme d'habitude ce bulletin avec la météo, toujours des températures plutôt fraîches qui sont prévues lundi. Lundi qui est le jour comme partout de la Saint-Sylvestre, Sylvester en tchèque. Je vous souhaite donc une excellente année et de vous retrouver en pleine santé, en pleine forme, en 2008 sur Radio Prague, à l'écoute des programmes en français. C'était Alexis Rosenzweig. Dans un instant, la suite de ce programme en français.
Culture sans frontières, Anna Kubishta.
Bonjour, Jan Zerzavi. La simple vue par écrit de son nom a autrefois dû en effrayer plus d'un en France, pour qui voulait prononcer le patronyme de ce peintre tchèque dont le destin est en partie lié à l'Hexagone. De la fin mai à la mi-septembre 2007, le manège du palais Wallenstein a accueilli une rétrospective de son œuvre à l'occasion des 30 ans de sa disparition. C'était donc une occasion de se pencher sur un personnage et des tableaux qui souvent donnent l'impression de nous embarquer dans un monde onirique et mythologique, parfois un peu dérangeant. À l'occasion de cette rubrique culturelle pour les fêtes de fin d'année, je vous propose donc de réécouter cette émission de l'été dernier. De 150 œuvres en tout, dessins, peintures à l'huile, illustrations, essais graphiques, la Galerie nationale, dépositaire de l'œuvre de Jan Zerzavi, a rassemblé un éventail représentatif de la création de l'artiste né en 1890. Andrzej Chrobak, directeur de la collection des œuvres graphiques et dessins de la Galerie nationale, rappelle qu'après la Seconde Guerre mondiale, Zarzavi fut interdit, comme bon nombre d'artistes, par les autorités communistes, avant de pouvoir retrouver le chemin des galeries et salles d'exposition lors des débuts de la libéralisation du régime dans les années 1960.
Les expositions de Jan Zarzavi après la Deuxième Guerre mondiale ont toujours été un événement non seulement culturel, mais aussi et surtout politique. En 1963, s'est déroulée une exposition dans la galerie Manès. 110 000 personnes sont venues voir cette exposition. Un chiffre tout à fait honorable et surtout inimaginable aujourd'hui. Le conservateur de l'époque a plus tard déclaré que cet intérêt n'était pas uniquement lié à l'œuvre de Jan Zarzavi en tant que tel, mais à sa personnalité et aux connotations politiques du phénomène. Jan Zarzavi a toujours été, surtout après la coupure de 1948, considéré par les représentants du réalisme socialiste comme un des liens avec la culture de la Première République, avec la tradition de l'art moderne. Pour la plupart des gens qui venaient le voir, c'était une forme de résistance molle liée à la libéralisation qui avait commencé en 1963.
Mais Jan Zarzavi, rappelle Andrzej Chrobak, n'était pas qu'une figure de l'opposition. En 1965, il fut nommé artiste national et beaucoup d'apparatchiks, qui de toute évidence versaient dans l'art et la qualité, souhaitaient faire l'acquisition de certaines de ses œuvres. En 1990, rebelote, une exposition est à nouveau organisée, mais toujours dans un contexte politique fort. Pour Andrzej Chrobak, donc, cette nouvelle exposition est enfin l'occasion de voir des œuvres de Zarzavi délestées de leur charge politique et d'apprécier sa création du seul point de vue esthétique. Le nom et l'œuvre de Jan Zarzavi sont étroitement liés à une région de France où il passa plus d'une dizaine d'années, la Bretagne. Zuzana Novotna, commissaire de l'exposition rétrospective, rappelle comment le peintre tchèque a fait connaissance avec la France et avec cette région.
Jan Zarzavi se narodil před rokem 1900 a to byla doba.
Jan Zarzavi est né avant 1900. Lorsqu'il a commencé à créer, c'était une époque où Paris était un centre artistique où tous les jeunes artistes de l'avant-garde venaient s'y installer. En 1906 ou 1907, Jan Zarzavi a fait son premier voyage à Paris où il a découvert Léonard de Vinci au Louvre. Bien entendu, l'art tchèque était influencé par Paris. Il a alors découvert Gauguin, qui peignait aussi en Bretagne. Ça a été la deuxième impulsion pour revenir. On dit que c'est sa petite amie qui a choisi la Bretagne comme destination où il a alors pu se concentrer sur son travail au début des années 1920. Il vit d'abord à Paris, se rend de plus en plus en Bretagne, où il finit par construire sa maison, où il passe l'essentiel des années 30.
Svůj dům, kde může tvořit a většinu času v 30. letech tráví tam.
Ses retours en Tchécoslovaquie sont peu fréquents, mais cette lune de miel entre Zarzavi et la France prend fin avec les accords de Munich en 1938. Jan Zarzavi rentre dans son pays d'origine. Il est d'une part furieux du lâchage français et d'autre part obligé de retourner chez lui car le climat politique international a bien entendu changé. Pourtant, la France continue de l'inspirer. Pendant la guerre, il continue à peindre la Bretagne d'après ses souvenirs et après-guerre, il y retourne encore une seule et dernière fois. L'Italie et la Grèce seront ses destinations à l'avenir. De manière instinctive, Jan Zarzavi sent et s'intègre dans l'air du temps artistique de la fin du XIXe siècle et il réagit aux essais de l'avant-garde, comme le confirme Zuzana Novotna.
Jan Zarzavi byl solitární umělec. ale samozřejmě sledoval proudy.
Jan Zrzavý je un artiste solitaire, mais il suivait bien entendu les courants artistiques autour de lui. Avant la guerre, il était dans l'association Sursum et en 1918 dans le groupe Tvrdošíni avec Josef Čapek. Il a pris de l'indépendance justement avec ses voyages en Bretagne. Il avait plusieurs amis qui l'ont aidé à se faire connaître. Plus tard, il a fait la rencontre de Takar Štormarien. Pour la maison d'édition de celui-ci, il a réalisé plusieurs illustrations de livres comme Maï de Karel Hynek Macha et Kiki C'est Karel Jaromír Erben, qui sont donc liés à son nom dans les années 1930. La sortie de Maï en 1925 a donc beaucoup rapproché Zrzavý du public et il est devenu un artiste recherché.
Kytice, c'est aussi une cantate du compositeur Bohuslav Martinů, que le compositeur tchèque avait créé exprès pour son ami Jan Zrzavý. Et c'est cette musique que j'ai choisie pour accompagner tout le long ce portrait du peintre. Influencé par le pointilliste Georges Seurat et le symbolisme primitif de Paul Gauguin, il est à l'écoute de son temps, des styles de la décadence et de l'expressionnisme, mais aussi du cubisme grâce à son ami Bohumil Kubišta. Ses modèles, il les trouve dans la peinture médiévale de la Bohème, Maître Théodoric, mais aussi en Italie, avec Fra Angelico, Giotto et Léonard de Vinci, mais aussi le Gréco. Léonard de Vinci fut d'ailleurs son modèle depuis l'enfance lorsqu'il étudiait les principes picturaux que celui-ci avait théorisés. Monde magique, tout en rondeur ou en figure simple ou géométrique, figure tout en courbe ou visage taillé au couteau comme dans du bois tendre, paysage onirique ou plus réaliste. Jan Zrzavý surprend et attendrit. Il met parfois un peu mal à l'aise, un peu comme peuvent le faire certains visages de femmes peints par Luca Crana autrefois, ou pour les femmes aux yeux étirés de chat, on ne sait si on doit les admirer ou en avoir peur. Une ambivalence des formes esthétiques, des changements au cours de sa création, qui d'après Zuzana Novotná, correspondent à sa propre ambivalence psychique et à une expression qui virait parfois au narcissisme.
Zrzavý a créé son propre mythe, il le stylise. Et cela depuis son jeune âge. À l'école des arts et métiers, il a pris le surnom de Gauguin. Plus tard, il a incarné l'image du vieillard à la grosse moustache, bien entretenue, avec un béret à habit de velours. Il aimait à se représenter. On peut voir certains de ses portraits dans l'exposition. Il se projetait aussi dans d'autres personnages de ce thème, comme Assurbanipal, ou encore dans des figurines plus problématiques, telles que les Fées des Bois, où l'on retrouve cette forme d'ambivalence, narcissisme, voire homoérotisme.
Thank you. fin de Culture sans frontières. Cette émission était une rediffusion, l'occasion de redécouvrir le peintre Jan Zerzavi. Il ne me reste qu'à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Une excellente année 2008 en compagnie de Radio Prague, bien sûr. À la semaine prochaine, en 2008.
Vous avez dit la République tchèque ? Voyagez donc. Jarka Gregorova.
Dans cette émission de fin d'année, je vous parlerai, chers auditeurs, des mystérieuses pierres de Kaunov, situées à proximité de la ville de Rakovník en Bohême de l'Ouest. Parfois, les experts font une parallèle avec la station balnéaire Karnak se trouvant sur la baie de Quiberon en Bretagne, connue pour ses alignements mégalithiques. Les mystérieuses pierres de Kaunov ne s'élèvent pas en hauteur comme la plupart des menhirs, mais sont assez basses. Elles sont alignées en 14 rangées qui sillonnent la forêt, puis il y a quelques pierres solitaires. Au total, il y a 2500 pierres de ce type dans la région. Il faut dire qu'il y en avait plus, mais les gens de la région les ont emportées de la forêt et utilisées pour construire leurs maisons. Maintenant, cela n'est plus possible, car les pierres sont protégées par les sociétés de sauvegarde de la nature de la région. Apparemment, les rangées de pierres seraient un calendrier qui jadis annonçait la venue du solstice. Les premiers renseignements sur les rangées de pierres, obtenus par l'instituteur du coin, datent de 1934. Puis, deux ou trois ans plus tard, on trouva une plaque en céramique avec une inscription bizarre, une tête de cheval et un svastika, appelé plus tard croix gammée. La plaque a été remise au musée de la ville de Jatets, mais malheureusement, elle a disparu et reste jusqu'à présent introuvable. Là encore, on a fait à l'époque une parallèle avec la plaque pratiquement identique trouvée en France, près du village Glozel. Les pierres font effectivement penser à ce genre de phénomène, héritage celtique, que l'on retrouve en Europe occidentale. Il est vrai que les Celtes sont arrivés jusqu'en Bohême occidentale, donc effectivement, cela ne semble pas trop bizarre. Les scientifiques estiment que les rangées de pierres basses servaient comme une sorte d'élément sensible à la pleine lune et autres changements, probablement basés sur les ondes de l'ultrason. Et maintenant, j'ai pour vous encore un mystère. C'est une histoire qui s'est passée dans l'église Saint-Jacques, construite dans un style purement baroque et qui se trouve dans une des ruelles derrière la cathédrale de Tignes, située sur la place de la vieille ville. À l'époque, l'église, donc à l'époque du baroque, elle avait un grand nombre de bienfaiteurs. Jan Václav de Mitrovice faisait partie de ce nombre. C'était un noble et un homme très âgé. Et une nuit, il fit un rêve terrible, un vrai cauchemar. Il rêva qu'il a été enterré vivant. Lorsqu'il se réveilla, il changea tout de suite son testament, en y ajoutant une petite clause en plus, où il priait son médecin pour qu'après sa mort, il lui transperce le cœur par une aiguille. Peu de temps après, le comte mourut à Vienne. Mais le médecin ne pouvait pas vraiment respecter la clause, tout simplement parce qu'il n'avait pas le courage. Le comte était un homme très bon. Et lui, il pensait que c'était quelque chose de très dégradant de lui transpercer le cœur par une aiguille. Alors, il ne fit qu'une petite égratignure. Et effectivement, on enterra le comte dans la tombe, mais malheureusement, ce dernier était vivant. La nuit, il se réveilla dans sa tombe, et lorsqu'il réalisa qu'il était effectivement enterré, qu'il n'y avait que le noir et que la pierre autour de lui, il fut pris de panique. Il frappa, il tapa, il fut un bruit énorme. Et il est vrai que les passants qui passaient autour entendirent ce bruit, mais ils pensaient que c'était un rêve et que c'était le fruit de leur imagination. Donc personne ne fit rien. Ce qui se passa après est tout à fait logique. Le comte mourut dans sa tombe. Il fut retrouvé par les moines quelques jours après son enterrement, mais dans un état désastreux. Il avait les yeux qui sortaient de ses orbites, les ongles qui étaient tout noirs de la poisse qui se trouvait sur le mur, et dans son regard, il avait quelque chose de terrifiant, d'atroce. Donc, le comte n'a malheureusement pas échappé à son rêve. Et maintenant, une recette pour vous, chers auditeurs. Cette fois-ci, il s'agira du kuba, un plat que, dans le temps, on mangeait en Bohême à Noël. Pour préparer le kuba, il vous faut 240 g d'orge mondée ou d'orge perlée, appelée aussi petite orge, 30 g de champignons séchés, bolets ou chanterelles, c'est au choix où vous pouvez mélanger les deux. Ensuite, 3 gousses d'ail, 1 à 2 cuillerées de marjolaine, 3 cuillerées à soupe de saindoux, 2 cuillères à soupe de panure, sel et poivre. Trempez les champignons dans de l'eau froide et laissez gonfler. Ensuite, vous allez cuire les champignons puis les égoutter. Par après, il faut rincer l'orge mondée ou l'orge perlée et cuire lentement jusqu'à ce qu'il soit ramolli. Laissez égoutter l'eau, s'il en reste encore dans la casserole bien sûr. Graissez le plat avec le saindoux et saupoudrez de panure. Mélangez l'orge mondée ou l'orge perlée avec les champignons. Ensuite, ajoutez la marjolaine, l'ail broyé, du saindoux, salé, poivré et placé dans le plat. Mettre au four pour plus ou moins une trentaine de minutes. La boisson est au choix. Et là, je vous avertis encore, comme les plats précédents, c'est un plat qui est assez lourd et qui est assez calorique. Mais je ne pense pas que cela soit gênant, vu que nous sommes en hiver et que dans la plupart des endroits, il fait tout de même assez froid. Donc je vous souhaite bon appétit.
Thank you. You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9750 kHz, or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz, and at 1700 hours on 15710 kHz, and at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz, or at 2230 hours on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz, and at 0430 hours on 9890 kHz. In the Middle East, listen at 1130 hours UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9890 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours UTC on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC on 13580 kHz.